Frères et sœurs, nous venons d'entendre le début du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, que nous lirons en continu cette année. Après les scènes inaugurales du baptême de Jésus et de sa tentation au désert, qui le situe d'emblée comme le Fils de Dieu, même si ce nom devra être approfondi, et l'homme qui fait le choix de l'obéissance à son Père dans la confiance. Et ce chapitre précède celui du discours sur la montagne, où Jésus apparaîtra nettement comme le nouveau Moïse. Ici, il s'agit de l'inauguration du ministère de Jésus, avec trois parties: l'arrivée en Galilée, l'appel des quatre premiers disciples et un sommaire, un résumé de l'activité de Jésus. Jésus quitte la Judée, c'est-à-dire le pays de Jérusalem et du sud, où Jean-Baptiste avait exercé son ministère, pour la Galilée du Nord, parce que Jean-Baptiste a été emprisonné. Le terme, c'est « il a été livré », que l'on retrouvera à la fin de l'évangile de Matthieu pour parler de la passion de Jésus. Voilà, nous sommes déjà en route vers ce drame de la vie de Jésus. Jésus quitte aussi son village tranquille de Nazareth pour Capharnaüm, cette grande ville cosmopolite située au bord du lac ou de la mer de Génézareth ou de Galilée. Capharnaüm, vous savez tout ce que c'est qu'un Capharnaüm. Ça vient de là. C'est le Marseille de l'époque. Pardon s'il y a des Marseillais parmi vous. Cette ville se situe aussi sur la route commerciale qui va d'ouest en est. Et Matthieu cite le prophète Isaïe, comme il le fera souvent dans son évangile. Vous savez que Matthieu est le plus juif des évangélistes, et pour faire comprendre la vie de Jésus, il a recours à l'Ancien Testament, pour bien montrer que Jésus est celui qui vient accomplir les promesses de l'Écriture. Donc le prophète Isaïe nous rappelle que ces territoires, Zabulon et Nephtali, que les gens ne connaissent pas plus que nous, mais ces territoires rappellent que c'est là, au nord, en Galilée, qu'a eu lieu la première invasion d'Israël en 734, et que cette région a été dévastée, une partie de ses habitants ont été emmenés en captivité, et ces régions ont été annexées par l'Empire assyrien, ce qui a fait que ça a fait une population mêlée, à moitié juive, à moitié païenne. Et les gens de Jérusalem, les purs, n'aimaient pas trop ces Galiléens. Et cette Galilée sera appelée la Galilée des nations, la Galilée des païens. C'est là que Jésus va commencer son ministère, dans ce territoire mélangé, ouvert sur les païens, et non pas en Judée, le lieu du judaïsme pur. Alors peut-être que nous rêvons tous d'une église de purs. Eh bien, Jésus, il n'a pas commencé avec une église de purs. Il a commencé avec, voilà, le peuple mélangé avec ses lourdeurs, ses épaisseurs. C'est là qu'il a d'abord révélé le royaume des cieux. Et c'est dans cette Galilée des nations que, à la fin de l'Évangile encore, le ressuscité enverra ses disciples en mission dans le monde entier. Mais au cœur de ce désastre, de ces régions envahies et dont les habitants ont été en partie déportés, Isaïe va faire retentir un message d'espérance. Il dira que ce peuple de vaincus il va revenir et que le pays de l'ombre et de la mort va devenir le lieu où se lèvera une grande lumière qui va libérer le peuple de l'esclavage et de la mort. Et on voit que Matthieu situe d'emblée Jésus comme celui qui, à la suite de Moïse, viendra libérer son peuple et lui apporter la lumière. Jésus va apparaître comme le nouveau Moïse, le Messie attendu. Et là, Jésus se met, comme Jean-Baptiste, à inviter le peuple à se convertir, à se tourner vers le royaume des cieux, qui est tout proche cette fois. Le texte dit qu'il a fini de s'approcher, il est là, mais il faut se tourner vers lui pour l'accueillir. Jésus est bien celui qui inaugure en sa personne le royaume attendu. Et il va commencer à enseigner dans leur synagogue. Au temps de la rédaction de l'évangile de Matthieu, vers les années 80, la rupture avec les synagogues, avec les juifs, est quasiment accomplie. Non seulement Jésus enseigne, c'est toujours assez facile de parler quand on a du bagou. Il y a des gens qui savent parler aux foules. Parfois, ce sont des démagogues. Eh bien non, Jésus non seulement parle et il commente surtout l'Écriture, mais il guérit toute maladie et toute infirmité. Il agit comme le Messie qui libère du mal et apporte le salut de Dieu. Et dès cette première annonce du règne de Dieu, Jésus appelle les disciples, ici les quatre premiers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet appel est suivi d'une obéissance immédiate. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. L'autorité de Jésus est plus grande que celle des grands prophètes Élie et Élisée. Quand il appelle, ça marche. Cela témoigne de l'autorité de Jésus et de la nécessité de devenir disciple, de marcher derrière Jésus pour participer à l'œuvre du royaume. Avant de devenir chef des églises, comme vont le devenir les premiers disciples, les premiers apôtres, il faut se mettre à la suite de Jésus. Et Jésus va faire de ces hommes qui pêchaient des poissons sur la mer de Galilée des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il leur donne la mission de rassembler les hommes pour qu'ils échappent aux ondes sombres et profondes de la mer. Pour les Hébreux, qui n'étaient pas très marins, la mer était le lieu du mal et de la mort. Et les disciples, à la suite de Jésus, vont être chargés de retirer les hommes de la nuit et de la mort pour les faire accéder à la lumière du royaume des cieux. Voilà, le tableau est planté, la mission peut commencer. Vous saurez la suite dimanche prochain et les dimanches qui viennent. Alors, frères et sœurs, comment sommes-nous concertés par cette parole du Seigneur ? Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à nous mettre à la suite de Jésus, à réveiller notre attente et notre désir. Quelle libération, quelle lumière attendons-nous pour nous et pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui ? Sommes-nous prêts à vivre l'aventure du royaume des cieux ? Sommes-nous prêts à entrer dans la joie de l'Évangile et à la partager ? Mais peut-être que nous avons peur de quitter nos filets, ceux de la pêche ou nos nombreux filets de protection, comme sur les chantiers ou au cirque. Et notre bon pape François, dans son exhortation, nous rappelle cette joie d'accueillir l'Évangile, cette joie qui nous renouvelle et qui nous entraîne dans une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Et alors il dit ceci vers la fin de cette exhortation, « Pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l'Esprit-Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse ou de nos peurs. Mais cette confiance généreuse doit s'alimenter et c'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer. Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit en renonçant à vouloir tout calculer et contrôler et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. » Voilà, que le Seigneur nous donne sa grâce, son audace, peut-être un peu de sa naïveté pour que nous puissions nous mettre en route derrière lui ou nous remettre en route derrière lui.